l'antenne du FM 93.1, 92.1. Voici vos informations.
Information en ce mardi 19 mars. Suite à l'annonce de l'annulation du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, le citoyen à l'origine de la plainte déposée en lien avec la sécurité de l'événement, M. Gilles Dussault, s'explique.
La personne, le citoyen qui a déposé une plainte en 2022, je pouvais pas me cacher derrière ça parce que c'est moi qui ai déposé une intervention auprès du ministère des Transports, auprès de la municipalité, auprès de la sécurité publique et auprès également du rodéo du camion avec M. Lafontaine. J'ai précisé que la sécurité était importante avec la présence des camions présentement, des nouvelles courses, des camions qui sont de Formule 1, la classe A et la classe B, qui deviennent très dangereux pour le public, pour les officiels et pour les bénévoles au rodéo du camion. J'ai cru bon de signaler le danger pour la sécurité parce que ailleurs, dans les autres événements, il y a arrivé des accidents et un blessé grave et c'était primordial de faire parler de la sécurité au rodéo du camion.
Monsieur Dussault est un des anciens directeurs généraux du rodéo du camion et il s'est impliqué dans l'organisation de l'événement pendant une vingtaine d'années. Il dit qu'il n'a jamais voulu que le rodéo cesse ses activités.
Non, je ne voulais pas que le rodéo du camion ferme. Je voulais que le rodéo du camion revienne à la base. Il y a 40 ans passés, on utilisait le même site de compétition pour faire les compétitions rodéo avec des classes de camions, avec des forces de moteur différentes d'aujourd'hui. Les camions devaient être immatriculés, camions de route normale. Les gars travaillaient avec le camion. Il y avait des inspections de la SAC et tout le monde venait s'amuser au rodéo du camion et il y avait beaucoup de plaisir à participer lors des compétitions. Au fil des années, ça s'est développé avec des forces de moteur extraordinaires. Une association et puis des gars. Je ne blâme pas les camionneurs qui ont modifié leur camion qui font des compétitions loin de là. Mais si ces gens-là veulent des compétitions de ce style-là, on ne peut plus faire ça sur une route numérotée. Il faut avoir un circuit privé.
M. Dussault affirme qu'il n'a aucune animosité envers les organisateurs du rodéo du camion.
Non, absolument pas. J'ai rien contre les gens qui ont œuvré bénévolement au rodéo du camion. J'ai absolument rien contre ces gens-là. On l'a fait de bonne volonté. On a cru bon d'avoir un événement. On a fait face à des problèmes d'assurance. On a fait face à beaucoup, beaucoup d'embûches. Il fallait un jour arrêter. On ne pouvait pas investir, comme M. Lafontaine a dit, dans une piste de course sur une route numérotée. Une firme d'ingénieurs qui a facturé le rodéo pour 110 000 $ sur une piste numérotée, je comprends pas. Je comprends pas du tout.
Énergie renouvelable Onimiki tiendra une série de rencontres publiques d'information pour faire le point sur son projet hydroélectrique au Témiscamingue. Ces rencontres font suite à des consultations qui se sont tenues en 2022 et à des commentaires reçus à la suite de la publication de l'avis de projet en 2023 au registre des évaluations environnementales du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. David McLaren, président d'Énergie renouvelable Onimiki, explique.
Le but, c'est vraiment de faire une mise à jour de notre projet qu'on a bonifié, que nous croyons, suite à l'écoute des premières consultations qu'on a eues déjà plusieurs mois, qu'on était retourné à la table de dessin, comme on dit, et repenser un peu notre stratégie. Et maintenant, nous croyons que nous avons un projet qui est davantage un bon projet pour nos communautés.
Certaines modifications ont été apportées au projet.
Nous sommes rendus à un projet avec deux mini-centrales comme c'était avant, sauf que on fonctionne avec Onimiki Nord et Onimiki Sud. Donc, un projet Nord situé à 15 km de Laniel et ensuite Onimiki Sud qui est à la baisse de la ville de Témiscamingue.
Trois rencontres publiques d'information sont prévues. La première se tiendra ce soir pour la communauté de Kébouek. La deuxième rencontre s'adresse à la communauté de Wolf Lake et aura lieu mercredi à Témiscamingue et une rencontre pour les citoyens de la ville de Témiscamingue et du territoire de la MRC de Témiscamingue se tiendra jeudi à 18h30 à la salle d'autorité de Témiscamingue. Des rencontres ciblées avec des organisations ayant participé à la démarche sont aussi prévues. L'exposition « Appartenir » en cours à la Galerie du Rift est composée du travail en art actuel de 12 femmes de l'Abitibi-Témiscamingue et du Québec qui abordent les notions d'appartenance au territoire qui se reflètent aujourd'hui dans la pratique en art visuel de femmes artistes qui sont liées à leur territoire et qui s'y enracinent à travers des rituels qui marquent cette relation avec le sauvage. Émilie Bécôté, co-directrice du Rift, nous explique.
J'avais envie de rassembler des femmes qui travaillent avec la thématique de l'appartenance au territoire dans une même exposition. Donc, j'ai sélectionné 4 artistes du Témiscamingue, 4 artistes de l'Abitibi et 4 artistes d'ailleurs au Québec. Et je les ai fait cohabiter dans la salle d'exposition. J'avais envie de travailler avec des femmes parce que je trouve que le rapport des femmes au territoire, historiquement, les femmes pratiquaient la cueillette, des choses comme ça. Donc, je voulais savoir comment ça se traduit aujourd'hui dans le travail en art actuel des femmes artistes du Québec.
Plusieurs formes d'art sont exploitées dans cette exposition en cours jusqu'au 27 avril prochain.
Pour moi, c'est important aussi de rassembler des femmes qui travaillent tous avec des médiums différents. On a autant de la peinture, de l'aquarelle, on a du vidéo, de la performance, de la sculpture, de l'estampe. On a vraiment plein de médiums différents. Et c'était une façon de démontrer que même si la préoccupation et la thématique est la même, chaque artiste a vraiment une couleur particulière et ça permettait justement de voir la diversité là, des pratiques artistiques de ces femmes-là.
Joanne Poitras, l'une des artistes participantes, a été interpellée par cette proposition.
Je connais le travail d'Émilie, qui travaille avec la nature. Dans mon travail, j'inclus aussi la nature. Ça dépend des projets que je fais. Quand elle m'a approché, c'était pour dire je veux faire un projet sur leur territoire. Et un projet sur le territoire, ben, ça m'interpelle beaucoup. J'ai dit OK, oui, ça m'intéresse.
Madame Poitras nous décrit le cheminement de son projet dans cette exposition.
Tu vois, les projets, hein, ils se suivent et à force de se suivre, on se crée une histoire. Je venais juste de faire un projet avec des croquis de pommes. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, ah, les feuilles qui tombent de l'arbre. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de prendre toutes les feuilles d'un même arbre? Alors, ça a commencé comme ça et empiler ça, des feuilles d'un peuplier hybride qui a été ramassé à Lorainville, sur le coin quand tu t'en vas à Béarn, beau gros arbre. Et là, plein de monde m'ont aidé. Il a fallu les faire sécher. Certaines ont été repassées parce que le peuplier hybride, il prend beaucoup d'eau. Un calcul plus ou moins, je te dirais, à peu près 350 000 feuilles. Ça paraît pas, mais quand t'empiles, le poids, ça se tape, la pesanteur, l'attraction terrestre, c'est exactement ça.
Et le centre multifonctionnel de Belleterre sera rénové. Un montant de 90 000 $ du Fonds Région et Ruralité du gouvernement du Québec permettra à l'organisme de rénover et agrandir ses installations. Jean-Luc Hein, président du centre multifonctionnel.
Ça va servir à refaire une cuisine communautaire. L'agrandissement au complet et à acheter l'équipement nécessaire pour mettre de restauration d'une cuisine communautaire, finalement.
Le but est d'être en mesure d'offrir un service de repas lors d'activités et d'événements.
C'est sûr qu'on va pouvoir offrir le service plus souvent parce qu'on fait des activités et qu'on n'offre pas ce service-là parce que, disons, on n'a pas la proximité des équipements. Mais c'est certain donc avec cet apport-là, on va pouvoir offrir davantage, c'est sûr.
Plusieurs activités se tiennent au centre multifonctionnel de Belleterre, mais sa vocation première demeure le curling. Construit en 1944, il s'agit d'ailleurs d'un des rares bâtiments conçus pour le curling encore existant.
Un bâtiment conçu exprès pour le curling, comme nous avons là. Nous, c'est deux glaces, il en reste pas bien. Ils ont dit que c'était le seul qui était répertorié au Canada.
Les travaux de réfection du centre multifonctionnel devraient être complétés au cours de l'automne 2024. Ça complète votre bulletin d'information régionale. Vous écoutez CKVM, la voix du Témiscamingue.